c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, pas moins de 3 coups de cœur ciné encore aujourd'hui qui vont vous être proposés avec, dans une poignée de secondes, notre spécial L'Astronaute. Nicolas Giraud et Anne Charrier vont venir nous rejoindre. En fin d'émission, on va parler également du très beau film de Steven Chepo intitulé Le Marchand de Sable qui sort mercredi. À cette occasion, le réalisateur Steven Chepo, accompagné de Ophélie Beau et de Moussa Mansali, seront nos invités exceptionnels. On va parler également de la sortie du film Juste Ciel de Laurent Tirard. À cette occasion, Guylaine Londez, Louise Malek et Valérie Bonneton seront avec nous. Nos coups de cœur télé cette semaine qui seront consacrés notamment à Cosmic Love pour Prime avec Lolita, une des dernières candidates arrivées dans l'émission à partir du 9e épisode. Et puis nous avons le plaisir également de recevoir aujourd'hui Lannick Gautry à l'occasion du lancement de L'Île prisonnière ce soir sur France 2.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film L'Astronaute de Nicolas Giraud, réalisateur bien connu dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine et principalement en Charente-Maritime. On a l'occasion de parler de ton deuxième film, L'Astronaute, Nicolas, avec un grand plaisir en tout cas. Merci d'être avec nous.
Merci, ça me fait très plaisir d'être avec vous aussi.
Et puis puisqu'on va faire une interview entre Charentais aujourd'hui, on a une régionale de l'étape aussi, bien connue en Charente, Anne Charrier évidemment, avec un parcours de comédienne absolument incroyable. Bonjour Anne et merci d'être là aussi.
Merci, merci à vous de nous accueillir.
C'est toujours un plaisir. L'Astronaute en plus, c'est un film dont on a eu l'occasion de voir au Festival d'Angoulême. Et il est vrai que là, on raconte l'histoire d'un astronaute qui en fait a raté sa place, puisque c'est Thomas Pesquet qui est parti à sa place. Mais il n'a pas dit son dernier mot, puisque tu racontes l'histoire de Jim Desforges que tu incarnes dans ce film.
C'est vrai, Jim Desforges a terminé 3e sur 4500 candidats. Comme dit le personnage de Mathieu Kassovitz, celui qu'on ne garde pas. Et en effet, il est incapable de renoncer à son rêve, qui est d'aller dans l'espace. Et il décide, dans le plus grand secret, de développer son propre lanceur, c'est-à-dire une fusée, et de réaliser le premier vol spatial habité amateur de l'histoire.
Et là, évidemment, ça va être un parcours semé d'embûches, on se doute bien. En tout cas, que ça va pas se dérouler comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Nicolas, de faire un film sur ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que dans le domaine du rêve pour toi, justement, on va dire l'espace et les astronautes?
Merci pour cette question, déjà, parce qu'elle me plaît. Au-delà de l'espace, je suis surtout un fou de cinéma. Et selon moi, l'espace est porteur d'espace, de dimension, d'invisible, de lumière, de cosmos. Et c'était l'endroit idéal pour exprimer ma passion du cinéma. Finalement, la fusée de Jim, c'est aussi mon film. Et j'aime bien la mise en abîme. Donc du coup, je partage les aventures de la pensée, de la fabrication, qui est celle de faire un film. Donc c'était le lieu idéal pour moi. Oui, c'est vrai que c'est un rêve, c'est un fantasme aussi. Je crois que j'avais envie de mettre une combinaison d'astronautes. Parce que je suis fou de Christopher Nolan. Quand j'ai vu Interstellar, je me suis dit, je veux faire ce genre de voyage. Et grâce à L'Astronaute, je peux utiliser les outils du cinéma. Le grand écran, l'expérience en salle, le sound design. Tu vois, tout ce qu'on ne peut pas vivre dans un téléphone portable ou dans une télé, même si tu as une super télé chez toi et un super son, tu n'auras jamais cette expérience visuelle et sonore que tu as en salle de cinéma.
S'il y a bien un film à voir sur grand écran, effectivement, c'est bien L'Astronaute. C'est vraiment un film qui se déguste sur un grand écran.
Je crois. En tout cas, avec mon équipe, je m'y suis employé. Oui, je rêve de grand écran. Et en plus, je rêve de grands, grands écrans. C'est-à-dire que plus la salle est grande, plus je suis heureux. Parce qu'en plus, d'aller dans l'espace, ça te permet d'être encore plus intime avec les individus qui restent sur Terre et on est tous interconnectés les uns les autres. Et mon job, c'est de sentir ce frémissement qui fait que d'un seul coup, on peut être proche d'une personne.
C'est un film que je verrais bien, moi, peut-être dans une version plus raccourcie, faite exprès, dans un parc comme le Futuroscope, sur des écrans d'une hauteur de 19 étages, enfin un truc de dingue. Mais c'est un film, en tout cas, que je verrais bien projeté sur ce type d'écran un peu exceptionnel.
En tout cas, le décollage, peut-être. Je veux pas trop en dire, parce que les gens vont découvrir le film. Ouais, si on peut faire vivre le vrombissement des moteurs d'une fusée, c'est toujours très émotionnel. Je crois que quand l'être humain arrive à s'arracher de la planète, même si je suis un fervent défenseur de la Terre, des racines qui poussent vers le ciel, comme ce chêne là sous lequel je me trouve, si ça peut faire du bien aux gens, ouais, allons-y. Faisons un extrait du film sur 19 étages, ouais, ça me va.
Anne, on va parler de ton rôle en quelques mots. Vas-y.
Alors, moi, je joue la chef de la sécurité d'Ariane Group, qui sait que quelque chose ne tourne pas rond, puisque elle pressent que quelque chose se passe à l'endroit de Jim DeForge, qui par ailleurs est un ingénieur plutôt très doué, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe et elle va effectivement se rendre compte que quelque chose lui échappe et le traquer jusqu'au moment où je ne dirai pas la fin du film.
Non, il ne faut pas, mais elle va pas voir d'un bon œil en tout cas ce qu'il veut faire.
Elle va le traquer, c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond de l'histoire.
Qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette histoire, toi, qui t'a fait dire oui? Outre que c'est un réalisateur charenté.
Oui, alors il y a ça, bien sûr, mais je fais pas mes choix en fonction de l'origine des réalisateurs. Mais
bah, vu ton palmarès, oui, c'est sûr.
Non, mais il se trouve que Nicolas est... Alors, il y a déjà une rencontre humaine. J'ai rencontré Nicolas, il y a quelque chose de très intense et de très habité chez lui. Et puis, il y a cette histoire merveilleuse autour du rêve et de tout ce qu'on met en œuvre pour accéder à ses rêves, même quand tout le monde nous dit que ça n'est pas possible. Et nous, inévitablement, les gens qui ont choisi ces métiers-là, artistiques, on a été entourés de gens qui nous disaient que ça n'était pas possible. Donc, cette dimension-là m'a parlé immédiatement.
Pour toi, Nicolas, ce qu'accomplit Jim dans le film serait dans l'ordre du possible à un moment donné, de pouvoir construire sa propre capsule. Est-ce que tu penses peut-être que dans des années futures, dans l'immédiat certainement pas, mais est-ce que tu penses que c'est encore dans l'ordre du fantasme ce que réussit à accomplir ou pas Jim DeForge dans le film?
Absolument possible. J'aime le réalisme. L'astronaute n'est pas du tout un conte. Je me suis associé à Jean-François Clairvoy, qui est un des plus grands astronautes français et européens, qui allait 3 fois dans l'espace. Dieu merci, Ariane Group a été sensible à mon projet et nous a ouvert les portes. Donc, évidemment que c'est possible. À partir du moment où tu t'investis pleinement, où tu es capable de patience, de résilience, et que tu mets toute ton énergie, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, que tu veuilles devenir le plus grand pâtissier, l'inventeur d'un nouveau système de plomberie, ou en l'occurrence de faire ce genre de film, c'est possible. Maintenant, faut être conscient qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des moments de vide, qu'il va y avoir, comme le disait Anne Charré à l'instant, des gens qui vont dire « mais n'importe quoi, ça n'existe pas, une fusée de 12 mètres, ou on ne peut pas faire ça, ou ce sont que les Américains qui font ça, et gna 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 ». Non, tu peux tout faire. Je peux vous dire que je viens de loin, j'étais apprenti en maçonnerie à 16 ans, je suis allé en Guyane française en 1995, invité par ma marraine qui vivait là-bas à Kourou, et son voisin était ingénieur en sauvegarde sur Ariane 4, ça je peux pas le prévoir, il se trouve que c'est son voisin qui se lie d'affection pour moi et qui décide de m'emmener chez Ariane à cette époque.
Et qui transmet le virus du coup?
Non, pas du tout, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu un homme attentif à un jeune garçon. Un jeune garçon qui avait déjà des rêves dans les yeux. Mais j'étais à des années-lumière que 25 ans. 25 ans après, j'allais faire un film sur un gars qui fait une fusée. Je parle de ça. La fusée, c'est la métaphore absolue. Mais je le redis, tout ce que tu veux, si tu t'en donnes les moyens, c'est possible. Et c'est à la portée de chacun. Et c'est surtout ça que je veux partager. Et ce que réussit Jim, surtout, c'est pas simplement d'aller dans l'espace, mais c'est peut-être d'apporter de la sérénité, de la joie, de la paix dans sa famille. Il répare les choses. D'un père blessé, la relation du père de Jim avec son propre père, donc le grand-père de Jim, n'était pas satisfaisante. Mais parfois les choses passent par les petits-enfants, etc., etc., etc.
On écoute la bande-annonce, l'astronaute, ça sort ce 15 février au cinéma et on revient juste après.
Je vais rencontrer Alexandre Ribot.
Pense à autre chose, mon vieux. Quand tu te réveilleras, tu verras que tu auras passé ta vie à courir après quelque chose d'impossible.
C'est un des plus grands astronautes français et lui, il croit en moi, il croit en mon projet.
C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant. Ça fait 8 ans que je travaille sur cette fusée.
Du beau travail ?
Enfin, 2 ou 3 détails près.
C'est-à-dire ?
Voilà, prendre des risques, c'est une chose. Penser que tu vas y arriver seul.
J'ai un ami qui me donne un coup de main. Et puis il y a ma grand-mère.
De retour pour notre spécial, L'Astronaute. Le film sort en salle ce 15 février. On va continuer à en parler de ce film avec Nicolas Giraud, le réalisateur, et Anne Charrier qui sont avec nous. Nicolas, comment on prépare un film comme ça? On va rencontrer justement des astronautes. Comment on fait pour préparer un film avec... C'est hyper ambitieux de faire sur ce domaine-là.
On remonte ses manches, on se concentre, on essaye d'être ouvert, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis on essaye d'avoir autour de soi des gens qui te comprennent et qui vont apporter leur spécificité, leur talent, qui vont nourrir et porter le tien. Voilà, ma chance dans tout ça, c'est d'avoir un grand producteur qui s'appelle Christophe Rossignon, qui est le patron de Nord-Ouest et qui, par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas au hasard, est passionné d'espace. Et quand je me pointe, moi, avec mon histoire de ce jeune homme qui décide de faire une fusée artisanale, il me regarde et il me fait « t'es sérieux ?» Je dis « oui, très ». Il me dit « top, là, je produis le film ». Et grâce à lui, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu rencontrer Jean-François Clairvoy, qui lui encore a dit « waouh, j'aime l'axe avec lequel tu souhaites aller dans l'espace ». Et après, c'est un long travail d'écriture que j'ai partagé avec Stéphane Cabel, qui est mon co-scénariste, que je salue. Et puis, le chef opérateur, Renaud Chassin, qui est un homme aussi délicieux que, enfin, je l'adore, quoi. Tu travailles avec tout le monde comme ça. Je salue toute mon équipe. Je pense à Superpose, Gabriel Le Gueuleux, qui est mon compositeur, qui m'a permis de transcender l'image et le son.
C'est les personnes qui t'ont permis de faire exactement le film que tu voulais, que tu attendais.
Oui, je vais pas mentir. Anne pourrait en témoigner. Je suis intense. Je vais pas faire semblant. Je suis pas en train de chuchoter sur mon plateau. J'ai une idée très précise du son, du cadre, de la tonalité d'un acteur, de la maille qu'il va porter, de la couleur des rideaux, de la couleur du mur, du givre sur l'herbe. On va pas se mentir. Maintenant, tout seul, je fais rien. J'ai besoin des autres. Comme je le disais, c'est un travail d'équipe. J'ai besoin et me réjouis du talent des autres. Si j'écris pour une femme comme Anne Charrier ou quelqu'un comme Hippolyte Girardot ou Mathieu Kassovitz ou Hélène Vincent, c'est que je sais que je peux avoir confiance en eux, en leur intelligence, en leur réponse. Et moi, je suis juste là pour faire danser les choses. Voilà, les articuler.
Qu'est-ce qui t'a plu, Anne, justement, quand t'as lu le scénario, toi? Tu t'es dit quoi en premier?
Ah bah, je me suis dit ce que je te disais auparavant, c'est-à-dire que cette histoire-là, c'est une métaphore de notre métier aussi. Et puis, c'était de participer à cette aventure-là. C'était de faire partie des talents que Nicolas avait choisis. C'était une équipe de fous, c'était... Il y avait quelque chose d'intrépide dans l'aventure. Et moi, j'aime bien l'intrépidité d'une aventure.
C'est presque le rêve de tout enfant, l'espace. Aujourd'hui, quand on voit Thomas Pesquet, les étoiles qu'il met dans les yeux de milliers, de millions de personnes aujourd'hui, c'est un domaine qui fait rêver. S'attaquer à un domaine qui fait rêver, automatiquement, c'est s'adresser au plus grand nombre.
Exactement. Donc, et puis c'est ce panache-là, c'est se dire, on y va, quoi qu'il arrive. C'est la politique des petits pas aussi, parce que c'est des aventures qui se font sur du très long temps. Mais tout ça, c'est grisant pour nous, interprètes. On a envie de s'abandonner à ce talent-là.
On va terminer par vos projets. Donc là, il y a l'astronaute qui va se donner dans 2 jours au public. Pour toi, Nicolas, est-ce que tu penses déjà à un autre film, à la suite? Est-ce que tu as déjà des projets? Tu écris? Comment ça se passe?
Oui, je suis en écriture depuis le début du mois de novembre, de mon 3e long métrage donc. Après être allé dans l'espace, je me suis dit, mince, tu vas aller où? Tu vas quand même pas tourner. J'ai envie d'Antarctique.
Ah oui. Alors là, c'est un autre défi encore. Hein.
Voilà, donc... Je prépare mon 3e long métrage, voilà.
Super, Anne, pour 2023.
Pour 2023, moi je vais être en tournée pour le théâtre. Je vais tourner la pièce Berlin-Berlin que j'ai jouée en 2022 à Paris. Et puis je tourne une série pour OCS qui s'appelle Rictus d'Arnaud Malherbe, qui était le réalisateur de Chef et que je retrouve avec beaucoup beaucoup de plaisir. Voilà.
Super. Des projets, toujours, ça c'est génial. Et puis ça sera l'occasion de revenir nous en parler. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir Astronaute. Ça sera ce 15 février au cinéma. Et je vous dis bonne chance en tout cas. Et merci à tous les deux d'être passés nous voir pour nous en parler. Merci Anne.
Merci, merci à vous.
Et puis merci beaucoup Nicolas aussi.
Merci beaucoup, c'était super.
Si à nous 5, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible.
À mon signal, tu lances la mise à feu.
Ok.
3, 2, 1, allumage moteur.
Et si la fusée explose?
Elle explosera pas.
Attends, il y a un problème. Isomis!
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. la télé,
le talk show radio.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré à Juste au ciel qui sort mercredi dans les salles. On va avoir le plaisir de découvrir ce nouveau film de Laurent Tirard. Et c'est son mois. Elle va passer quasiment le mois de février avec nous. Guylaine Londès qui est avec nous. Bonjour Guylaine.
Oui, bonjour.
Parce qu'elle sera avec nous également dans 15 jours pour parler de ce très beau film aussi d'Olivier Péillon, Arrête avec tes mensonges. Et elle est accompagnée de Louis Malek qu'on a eu le bonheur de recevoir pour Scam, notamment une série qui a cartonné sur Slash France TV. Bonjour Louise.
Bonjour.
Qui joue une stagiaire, vous allez voir, qui va emmener ce couvent de façon assez joyeuse. On va le voir, mais d'abord, on va essayer de planter un peu le décor. Louise, t'as envie ?
Allez, vas-y, je me lance. Eh ben, on est sur quand même 5 bonnes sœurs qui vont participer à une course de vélo pour essayer de restaurer un peu un EHPAD vraiment en laborieux état. Et elles vont participer à cette course de vélo. Bon, la mère supérieure est pas complètement d'accord au début. Finalement, elle voit que c'est bien vu, donc elle accepte. Et ça va être toute cette péripétie de ces bonnes sœurs qui sont complètement déjantées, complètement décalées, mais en même temps, qu'on ne peut pas ne pas aimer.
C'est vrai, elles sont très très attachantes. On va parler de sœur Béatrice un petit peu. Ouais. Comment tu la définirais, toi, Guylaine ?
Un être sensible, en fait, est tellement sensible qu'elle emmerde un peu tout le monde parce qu'elle est toujours côté très enfantin. J'ai adoré jouer ce côté très enfantin. Il y a un côté un peu clown hein. Chez nous toutes. On est un peu des poules, d'ailleurs, on le dit, des poules sans tête. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elles vont un peu dans tous les sens. Elles sont assez drôles pour ça. Et sœur Béatrice amène donc ce côté un peu naïf, un côté un peu trop sensible et rigolo, je trouve. Mais super. Enfin, j'ai voulu lui donner un peu quand même de
fantaisie, moi, je trouve
de
aussi.
Fantaisie et de profondeur aussi. Il y a un vrai truc chez elle. C'est pas vain. Elle a un vrai cœur, quoi. Voilà.
Une belle découverte aussi dans ce film, Louise, avec ce personnage de Gwendoline, une jeune fille qui se cherche, qui cherche un peu le monde dans lequel elle vit, à se faire accepter, à se chercher sa place, et puis elle va essayer de la trouver auprès de ce couvent en tant que stagiaire pour découvrir, c'est effectivement la religion et la foi et son chemin ou pas. Comment tu la définirais, toi, Gwendoline, Louise?
Eh ben, je dirais que c'est quelqu'un de très maladroit, mais en même temps de très attachant par son grand cœur et son envie de bien faire toujours. Parce que même si elle fait parfois mal les choses, même si parfois elle dit des choses pas adaptées, ça vient surtout d'où elle vient et donc c'est beaucoup de maladresse, mais en même temps, c'est ça en fait. Elle est authentique, elle est vraie et elle a un vrai cœur et elle est très déterminée, elle fait les choses avec passion et avec envie. Et je pense que si ça avait pas été une course de vélo, si ça avait été une course de ski ou alors peu importe, elle s'y serait donnée au même niveau, autant à fond, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui se donne à fond pour réussir et pour surtout rendre fiers les autres et pour trouver sa place aussi.
Un beau casting, Claire Nadeau aussi, alors qui a pas plus de dialogue que dans Les Tuches, hein, on va dire, hein, que Mamie Suze dans Les Tuches, mais c'est tout, voilà, dans ses contrats de Claire Nadeau. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle, rien qu'avec les yeux et l'expression.
2 secondes, Claire Nadeau, en effet, plante une situation, en tout cas, le personnage, avec ses yeux, sa moue, on adore quand même, en effet, c'est mimique, elle a pas grand-chose à dire, mais en 2 secondes, on part, c'est drôle, quoi.
C'est ça qui est incroyable avec cette actrice, c'est que elle n'a pas besoin de parler pour transmettre 800 000 émotions. Et c'est dingue. Moi, ça m'a impressionné que de voir comment elle arrive à tout faire passer par son corps, sa tête. Ça m'a beaucoup impressionné. Ouais, franchement.
On va écouter la bande-annonce Juste ciel. Ça sort mercredi au cinéma. Et on va écouter un petit extrait. On revient juste après avec vous deux.
Que nous vaut l'honneur de votre visite.
Nous venons participer à la course de vélo.
Oh putain, nom de Dieu!
Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller.
Et si on demandait à Monsieur Pierre de nous donner des cours ?
Alors les filles, ça paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement.
Et Juste ciel, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine à découvrir dans les salles le nouveau film de Laurent Tirard. On va évoquer vos souvenirs de tournage à toutes les deux. Pour le coup, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers ? Est-ce que vous partagez beaucoup de scènes chorales finalement avec Camille Chamou, avec Valérie Bonneton, avec Claire ? Il y a énormément de scènes chorales. Puis avec ses sœurs qui arrivent aussi d'un autre couvent pour voler un peu la vedette au vôtre.
En fait, moi, le souvenir que j'ai, d'abord, on s'est extrêmement bien entendu. Nous n'étions que des femmes, hein. Des femmes avec des sacrées personnalités, de sacrés caractères, hein, c'est évident, et toutes très différentes. Mais ce que j'ai adoré, c'est une vraie osmose. On est resté enfermés quand même 1 mois et demi dans un hôtel. On était comme période plein Covid. Donc en fait, on est resté un mois et demi dans le Jura, dans un hôtel, tous ensemble. Personne n'est sorti quand même du tournage, c'est-à-dire d'être allé à l'extérieur, n'est rentré chez lui. Donc il valait mieux qu'on s'entende bien, parce que voilà, un mois et demi ensemble. Et ce que j'ai adoré, c'est ça en fait. On était tout le temps ensemble et on a adoré être ensemble. Il y avait du travail, on a quand même beaucoup travaillé. Mais il y avait la fête aussi. Il y a eu beaucoup de fou rire aussi. C'est des situations qui quand même engagent forcément le rire. Même pour nous, on riait pas parce qu'on était génial, on riait parce qu'en fait les situations étaient très drôles à jouer. Donc voilà, un lieu extraordinaire, le Jura. On a découvert une région sublissime qu'est le Jura. Une beauté inouïe. On était comme au 19e siècle. Baume les messieurs et tout ça, c'est juste extraordinaire. Hein. C'est à visiter.
Oui, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est la scène du grenier. Tu pétrifies toutes les autres sœurs. Tu dois les accompagner justement dans cette chambre, dans le grenier, et d'un seul coup tu t'amuses à leur faire peur, et la scène est très très drôle.
Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai adoré le faire. Bah, évidemment, en fait c'est comme un conte. Elle parle comme à des petites filles, elle raconte l'histoire très grave qui se passe dans le grenier. Donc elle y met tout son cœur. En fait elle joue, c'est une joueuse, mais c'est une bonne conteuse en fait. Elle leur fait peur.
Et moi, la scène que j'ai bien aimée pour toi Louise, et une scène hyper hyper attachante et touchante aussi, c'est la scène avec François Morel, où évidemment lui il pète les plombs, vous verrez pourquoi dans le film, et donc il en veut énormément aux sœurs, et toi tu viens de remettre, mais d'aplomb.
Bah oui, c'est vrai que c'était un des premiers jours de tournage, donc faut savoir que j'étais pétrifiée en fait de dire tout ça face à François Morel, qui est quand même c'est quand même un bon petit monument, François Morel, et donc j'étais pétrifiée au départ. J'avais peur de pas être à la hauteur, mais en fait c'est vrai que mes camarades m'ont beaucoup aidée. Je me rappelle ce moment-là, j'étais stressée, et c'est vrai que vous étiez toutes là à m'aider, à me soutenir, et ça m'avait vraiment mis en confiance. Et au début, bon, j'étais stressée et un peu bloquée, mais François aussi me mettait vraiment en confiance aussi. Et toute cette confiance, en fait, tout cet amour qu'on me donnait, toute cette cohésion m'a mis à l'aise, et j'ai adoré finalement faire cette scène alors que ça partait d'un très gros stress.
Bon, j'imagine en tout cas vous avez vécu de beaux moments, nous on le voit sur l'écran. Mercredi Juste Ciel, ça sort au cinéma. Merci à toutes les deux en tout cas d'être venues nous parler de ce film. Vous avez rien, on en a besoin en plus. En ce moment on va finir par vos projets, on le disait, Guylaine, tu reviens avec Guillaume de Tonquédec, avec Olivier Payon, on va parler de ce magnifique film Arrête avec tes mensonges, aussi en plus tourné dans nos Charentes. Donc tu vas venir justement revenir nous parler de ce film. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2023 en plus?
Ouais, il y a une série Les Bracelets Rouges là qui a repris.
Oui, donc, saison 4, on en parlait quand on a parlé du discours il y a 2 ans. Tu espérais que ça revienne donc.
Et je suis ravie de refaire ça. Il y a du théâtre qui arrive aussi avec une pièce magnifique anglaise de Jane Anderson qui est magnifique, qui s'appelle Normal, que j'adore, avec Patrick Dasumsao. J'ai normalement aussi un téléfilm auquel je tiens, que je vais tourner normalement avec une jeune femme, une jeune réalisatrice, voilà, qui devrait se faire cet été.
Louise, les projets pour toi?
Eh ben les projets, j'ai peut-être un projet l'année prochaine, voire deux, mais en fait j'ai pas trop le droit d'en parler, mais voilà. Et puis aussi j'espère que Juste Ciel va m'apporter plein de trucs.
Recueillement pour nous évoque cueillir, accueillir, recueillir.
C'est bien pourri.
Ça suffit, vous dans mon bureau. Vous allez aider le vieillard de l'hospice.
Faut aller à la mairie pour demander une subvention, mais c'est des démarches compliquées. Hein.
Cette année, je t'ai passé là-dedans.
Vous avez fait quoi?
Et on continue à parler de Juste Ciel avec Valérie Bonneton qui nous a justement rejoint. Bonjour Valérie.
Eh bien bonjour.
Qui joue le rôle de mère Véronique. Alors une mère punchy, hein, on peut dire. Hein. C'est psychorigide au départ et puis tellement attachante, qui va nous montrer plusieurs facettes de ce personnage finalement.
Bah tout de suite j'ai eu envie de le jouer parce que quand même c'est très drôle. C'est-à-dire que une mère supérieure, comme son nom l'indique, dirige un peu et contrôle toute sa petite équipe de sœurs, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre arrive et en fait quelqu'un qui est au-dessus d'elle, qui est beaucoup plus compétente, parce que c'est une congrégation, les bénédictines, pas très compétentes en fait. Voilà, elles essayent de faire rouler, de respecter les règles au mieux, mais c'est quand même pas très efficace. Donc, dès quelqu'un d'autre arrive, c'est la panique. Et en fait, elles sont comme tout le monde, enfin, elles sont comme vous, comme moi. C'est-à-dire que on est toujours le petit quelqu'un, quoi. Et donc, là, il va y avoir une espèce de guerre entre elles deux pour gagner une course cycliste. Donc si vous aimez les bonnes sœurs, si vous aimez les cyclistes, ben vous allez vous régaler.
Si vous aimez les westerns aussi, parce qu'il y a une ambiance un peu western hein, par moment entre vous deux. Hein.
Il y a des genres différents, un mélange de charme désuet, des comédies, un mélange de modernité.
Ah oui, il y a des scènes très drôles entre les deux mères supérieures.
Ah bon, on s'est régalé parce que la chance d'avoir un groupe de super actrices dont Babette Kunson qui est géniale dans Borgen, voilà, donc qui est vraiment une super actrice. Et donc de pouvoir y mettre tous les travers humains, c'est-à-dire l'ambition, la veulerie, la jalousie, le truc qu'on retrouve encore plus chez les sœurs, c'est assez jouissif.
Bon, il y a eu plein de bons moments. Par contre, au niveau des mollets, il devait y avoir des mollets en béton à la fin. Hein,
parce qu'il y a
des scènes hein, de vélo qui n'ont pas été épargnées à Mère Véronique. Hein.
C'est réellement entraîné. On s'est réellement entraîné, c'est pas évident quand même. Hein. Puis on se dit, oh là là, parce que là, les virages, là, c'était quand même costaud. Mais j'ai apprécié le vélo de course, en fait, je trouve ça génial.
Il y a une scène particulière qui ressort?
Bah oui, bien sûr. Enfin, voilà, cette scène à table que j'ai adorée avec les repas, enfin, voilà, les trucs.
Cette scène de prière à table, elle est très drôle.
Ouais, elle est drôle. Mais plein d'autres. Et puis surtout la scène de la fin, en fait, où finalement, je trouve que c'est assez touchant, quoi, où les personnages évolue bien, ouais.
Ouais, c'est vrai. Vous allez voir en allant voir tout simplement ce film Juste Ciel qui sort mercredi au cinéma. Valérie, des projets pour 2023?
Oui, là je continue le film de Nicolas Vanier qui s'appelle Le Monde à l'envers et qui est un film qu'il a écrit il y a 3 ans et qui est incroyable puisque c'est absolument aujourd'hui. C'est-à-dire plus d'électricité, plus d'essence, c'est une comédie. Voilà. Donc on continue parce qu'on a tourné en hiver et là on va tourner l'été au mois de mai. Ensuite, je vais faire le film de Philippe Paulet-Villard qui Carré Productions, qui avait eu un Oscar et un César pour son court métrage le Mozart des cambrioleurs et j'ai hâte parce que c'est vraiment un beau scénario, très beau scénario quoi.
Alors, on a eu un beau cadeau de Noël il y a un an, c'est de revoir les Boulets et les Lepic pour un épisode spécial. Est-ce que vous prévoyez peut-être de vous retrouver à nouveau pour un épisode spécial ou peut-être pour un film au cinéma un jour?
Peut-être, mais pas pour l'instant en tout cas. Voilà, je suis fière de cette série, je suis très fière. Vraiment, j'ai une chance merveilleuse d'avoir pu jouer plein de situations, plein d'états, de drôleries, de folies, de psychopathes limites, de tendresse, d'émotions. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses aussi différentes, et dans la comédie, et dans des choses plus sensibles, ouais.
En tout cas, j'ai une femme qui sait très bien vous imiter quand elle m'appelle à table maintenant.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est culte. Bon, Valérie, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Il y aura du théâtre aussi.
Oui, du théâtre. Muriel Magé, c'est une pièce, une très belle pièce. Il me plaît beaucoup.
Une scénariste qu'on aime beaucoup aussi, avec La Page Blanche, qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps au cinéma et qu'on a reçue. Voilà, on l'embrasse d'ailleurs, Muriel. Je sais qu'elle nous écoute régulièrement.
Super, super. Bon, on l'embrasse.
Merci beaucoup, Valérie. À bientôt.
À bientôt, à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à L'Île prisonnière qui débarque ce soir sur France 2 en 6 épisodes. Et c'est Lannick Gautry qui est avec nous pour en parler. Bonjour Lannick.
Bonjour, salut.
Merci d'être avec nous Lannick. On est très heureux de t'avoir, surtout qu'il y a beaucoup de choses. On a eu Escape 2 il y a quelques jours sur nos écrans. Il y aura de très belles fictions pour toi, en tout cas, qui vont arriver pour 2023. Et alors dis-moi, tu nous avais pas habitués à ce rôle de méchant comme ça quand même. Hein.
Ah ouais, ça fait du bien de jouer les badass un peu. Hein.
C'est clair. C'est bien d'être là où on n'attend pas.
Ouais, bah voilà, on dit toujours les mères l'adorent, là maintenant les mères l'aiment moins.
Mais si, on l'adore toujours, Lannick, on est toujours heureux de te retrouver. Tu vas y jouer le rôle d'Alpha, le chef d'activistes qui vont débarquer sur une île et qui vont confiner tout le monde sur cette île. Alors pourquoi? Comment? Le mystère va être entier et c'est ça qui va nous tenir en haleine pendant ces 6 épisodes. C'est un projet qui est vraiment génial, tourné en Bretagne dans des décors somptueux. T'as dû quand même passer de bons moments sur ce tournage, je pense.
Ouais, c'était vraiment beau. Après, moi, j'habite en Bretagne, donc j'étais un peu, je jouais à domicile, comme on dit, quoi. Donc ouais, c'est déjà les décors, etc. L'intrigue me plaisait vraiment. Le casting était quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir de parole, encore une fois, l'intrigue, le sujet et les gens qui étaient là pour défendre ce truc avec moi, quoi.
Alors Michel Bussy, du coup, qu'on connaît plus en tant que romancier, là, qui se met à la production d'une histoire originale qu'il crée lui-même. Quand vous l'avez rencontré, on connaît l'écrivain aujourd'hui, mais un peu moins le producteur, du coup.
Oui, non, mais ça c'est bien pour lui. Enfin, j'imagine pour tous, parce que donc on le connaît, Michel. Mais voilà, je crois que pour tout le monde, c'était c'est nouveau, c'est une nouvelle aventure pour lui, pour nous. Voilà, moi j'aime bien ce roman et puis là du coup on passe directement au scénario sans que ce soit adapté d'un roman et voilà, c'est très nouveau quoi. Et je pense que les gens qui aiment Michel Bussy ne seront pas déçus.
Alors oui, parce que ce qu'on peut expliquer quand même, Landic, c'est que L'île prisonnière a été tournée en partie dans le Morbihan, mais aussi Pointe Finistère.
Hein. Oui, Camaret, on a tourné à Camaret, donc le port, tout ça se situe à Camaret, donc à la pointe bretonne. Il y a des décors qui se situent aussi autour de Quimper et on a aussi tourné juste à côté de chez moi, à Guidel, quoi. Donc ça s'est un peu étendu sur depuis la pointe bretonne de Camaret jusqu'à Guidel, Lorient, quoi.
Comment tu le définirais, Alpha?
Alpha, alors comment le définir cet homme-là? En fait, on peut être d'accord avec lui ou alors le détester. En fait, c'est quelqu'un qui est habité par ses convictions. Et ça, c'est plutôt une belle chose puisque ses convictions sont écologiques. En fait, il veut défendre et en fait, il veut presque dépit un peu sauver, faire un acte assez violent pour pouvoir sauver les autres. Et donc après tout ça, on peut en discuter, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on peut s'attaquer à certaines personnes pour en défendre d'autres. Donc le sujet peut être débattu. Et lui, ce qu'il fait, c'est sauver la planète. Et encore une fois, voilà, il est perdu dans ses convictions. Et peut-être que parfois, quand on a qu'un seul regard, qu'un seul angle de vue, on peut en oublier les autres et qui peuvent être aussi assez importants, en fait. Donc je crois que c'est quelqu'un que son combat est juste, mais la méthode peut être discutable.
On est très vite embarqué dans un suspense, une tension, en tout cas qui nous embarque, nous, téléspectateurs. Et ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir être happé comme ça par une histoire.
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est propre au travail de Michel Bussy, en fait, où il arrive très vite dans son écriture à appeler le personnage. Et c'est plutôt, j'allais dire très intelligent, mais voilà, c'est ce qui fait aussi sa marque de fabrique. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de romans, que beaucoup de gens le suivent, etc. C'est qu'il a cette faculté-là à nous happer assez rapidement, quoi.
Alors, il y a un casting incroyable autour de toi, Pierre Perrier, Déborah François, on a vraiment c'est génial la troupe de comédiens qui est autour de toi là.
Anouk Grimberg, il y a vraiment un super casting. Bah déjà sur le papier, c'est pour ça, moi quand on m'a proposé le projet sur le papier, ça c'était assez alléchant. Et puis surtout Elsa Hippolyte, les réalisateurs et les réalisatrices qui sont très très bons. Non, sur le papier, ça comme on dit, ça a de la gueule, quoi.
Bon, les projets. Landic, on te verra bientôt aussi dans une fiction qui s'appelle Répercussions, qu'on a pu voir du côté du festival de Luchon, qui a été primé d'ailleurs meilleur scénario. On y raconte l'histoire d'une bande d'amis où ça tourne mal après un anniversaire un peu arrosé. Et il y a une très belle morale dans cette histoire, en tout cas qu'on découvrira bientôt. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous attendent avec toi?
Alors oui, là je suis en train de tourner la saison 2 de Vise le cœur.
Ouais, avec Claire Kaim.
Voilà. Et je viens de finir aussi un joli téléfilm qui sortira pour Noël avec Hélène de Fougerolles, réalisé par Gilles Paquet-Brenner, qui sortira l'hiver prochain. Donc il y a des choses qui arrivent, ouais.
Eh ben super, impeccable. Merci en tout cas, Landic, d'avoir été avec nous. On te retrouve ce soir dans L'île prisonnière. Les deux premiers épisodes, c'est sur France 2, c'est à 21h10, juste après Un si grand soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et on se quitte tout de suite avec un petit extrait. C'est parti.
Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici.
Ici, il n'y a personne qui a confiance en toi.
Vous pensez que je suis avec eux?
C'est pourquoi t'es revenu au bout de 10 ans.
Je te promets, je vais arranger tout ça.
Il y a tellement besoin
de
moi.
Ce que je vous demande, c'est de rien changer à vos habitudes.
Notre coup de cœur plateforme cette semaine est consacré à Cosmic Love. Vous le savez, le programme a débarqué en janvier sur la plateforme. Un nouveau programme de dating amoureux, mais sous le signe des astres. Ce coup-ci, et celle qui a fait son arrivée au 9e épisode, est une fille de notre région. Elle s'appelle Lolita et elle est avec nous en ligne. Bonjour Lolita.
Salut Alain, ça va?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Cosmic Love, l'émission présentée par Nabila, et donc a fait son arrivée en tout cas sur Prime. Et on peut dire qu'en tout cas, cette émission est sous le signe des astres. Mais pourquoi déjà tu as décidé, en tout cas, tu as eu envie de faire cette émission? Qu'est-ce qui t'a décidé, Lolita?
Eh bien écoute, l'envie de vivre une nouvelle expérience, déjà dans un premier temps, voilà, une expérience télé, c'est vrai que ça a attisé ma curiosité. Et puis en second plan, forcément, la possibilité de trouver l'amour. En plus de ça, c'est basé sur l'astrologie, donc c'est quelque chose que j'aime et tout, qui m'intéresse. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas.
Alors explique-nous un peu le concept de l'émission, puisque c'est sous le signe des astres que ça se passe pour ceux qui ont Prime et qui ne l'ont peut-être pas encore vu, même si l'émission s'est hissée en tête des vues pendant tout ce mois de janvier. Et c'est tes rencontres amoureuses, mais pas n'importe comment, puisque l'Astro Chamber essaye de bouleverser un peu les destins.
Alors oui, c'est vrai que moi je suis arrivée en tant qu'élément du coup, donc le principe c'était qu'il y avait quatre filles, on était quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et du coup, en fait, on avait donc des cosmic lovers qui venaient pour nous séduire. Et du coup, voilà, il y avait des connexions, on devait apprendre à les connaître et voilà, évoluer, voir comment ça pouvait se passer. Et on était, oui, évidemment, guidés par l'Astro Chamber qui nous donnait tous les conseils dont on avait besoin pour trouver voilà, la personne qu'il nous fallait.
Qu'est-ce qui t'a fait décider plus d'aller sur Cosmic Love que plutôt de faire une Villa des Cœurs Brisés ou d'aller faire une autre émission de ce type-là?
Eh ben, écoute, tout simplement parce qu'on me l'a pas proposé.
D'accord.
Voilà, non, tout simplement, c'est vrai que c'est des télés qui auraient pu aussi potentiellement m'intéresser. Donc voilà, j'ai été contactée pour celle-ci. Voilà, c'était Amazon Prime, c'était donc voilà sur une plateforme. C'est vrai que une télé, on va dire, qui peut être voilà, qui peut passer voilà vraiment tout le monde. Enfin, tout le monde n'a pas Amazon Prime. Du coup, ça réduit un petit peu, je pense, le nombre de personnes qui pouvaient voir l'émission. Mais du coup voilà, pour une première expérience télé, franchement, ça m'a paru bienveillant et tout, parce que c'est vrai que ça peut effrayer ce genre de programme, c'est vrai qu'on en entend du bien comme du mal.
À aucun moment, Lolita, t'as eu peur, justement?
Alors si, forcément, il y a de l'appréhension, parce que être filmage 24, c'est pas évident, afficher sa vie amoureuse, ses sentiments, c'est un exercice qui est pas facile, mais je me suis dit, allez, je relève le défi et j'y vais.
C'est une façon aussi de se soigner des blessures du passé par moment?
Eh ben oui, je pense que aussi c'est une manière pour moi de me soigner de certaines blessures, dans le sens où voilà, j'aime vivre des nouvelles expériences, peuvent parfois me mettre un peu dans des situations, on va dire, inhabituelles, qui peuvent être peut-être inconfortables par certains moments, mais ça pousse aussi à se dépasser, et je pense que c'est ce que je cherche aussi, c'est une expérience quand même de dingue, j'ai rencontré des gens incroyables, donc franchement, rien à dire, c'est top.
Bon, et la question que te pose tout le monde, évidemment, c'est Cosmic Lover, alors?
Eh ben, moi, j'ai eu vraiment deux feelings, on va dire, plus prononcés, donc avec Salah et André, donc, qui étaient deux de mes connexions, et voilà, c'est eux que j'ai gardé vraiment jusqu'au bout. Après, bah, derrière, j'ai fait un choix, voilà, le dernier choix, on va dire.
Qu'on verra, mais, voilà, pour ceux qui vont regarder l'émission.
Exactement, mais c'était des très beaux garçons, très intéressants. Enfin, franchement, il y avait rien à dire. C'est vraiment des très très belles rencontres.
Est-ce que t'as gardé des contacts, une amitié?
Alors oui, oui, j'ai gardé contact avec les filles, bien sûr. Donc en plus, on a eu la soirée de lancement, donc on s'est tous revus du coup entre Élément et Cosmic Lover. Et du coup, c'est vrai que Lison a partagé l'aventure de Miss France avec moi. Ça nous a un point en commun.
Bon, Lolita, maintenant que t'as fait cette première expérience, en tout cas de Cosmic Love, quelle est l'émission dont tu rêverais aujourd'hui de participer?
Alors, il n'y a pas forcément d'émission auxquelles je rêve de participer. Après, c'est vrai que on parlait de la villa tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un programme qui pourrait m'intéresser, dans le sens où moi, j'ai vraiment des blessures sentimentales assez prononcées avec une vraie histoire, et je pense que déjà, ça serait beau d'une certaine manière à expliquer. Et aussi, voilà, le programme, forcément, la Love Coach Lucie, c'est... Enfin, ah moi, bah oui. J'y crois complètement à ces thérapies. Enfin, franchement, pour moi, c'est pas du tout du fake. Et du coup, je me dis parfois que j'aurais peut-être besoin de son aide.
Que Lucie Mariotti pourrait t'aider.
C'est ça. Après, des trucs un peu plus sportifs et tout, parce que moi, j'ai un côté un peu aventurière. Donc, tout ce qui est les apprentis aventuriers, même Pékin Express, c'est des trucs qui pourraient beaucoup m'intéresser, ou c'est du challenge, ou c'est voilà du dépassement de soi, et c'est complètement ce que je recherche.
Bon, bah écoute, on te souhaite plein de belles choses. En tout cas, on va se quitter avec un petit extrait de Cosmic Love. C'est donc en ce moment sur Prime Video. Lolita, merci d'avoir été avec nous, et puis on te dit à très très bientôt, en tout cas.
Merci beaucoup, Alain.
On t'embrasse.
Allez, salut.
Je vous présente l'Astro Chamber.
Mon but, trouver le partenaire idéal à nos célibataires grâce à leur thème astral.
J'imagine que vous avez hâte de découvrir des fameux Cosmic Lovers.
C'est un signe
astrologique. À ton
avis. Lion.
Ouais.
Je comprends pas comment ça peut être ma connexion.
Et alors que le film a été primé au Festival du film politique de Carcassonne, au Festival du film de société de Royan, on va parler du film Le Marchand de sable dans un instant. Le film de Steve Acheppo qui nous rejoint avec Moussa Mansali et Ophélie Beau. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est sans conteste consacré au film Le Marchand de Sable de Steve Achepo qui est avec nous. Bonjour Steve.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu seras rejoint d'ici quelques minutes par Ophélie Beau et Moussa Mansali, tes deux héros. Le Marchand de Sable, c'est un énorme coup de cœur pour nous. On a eu la chance de le voir il y a quelques mois au Festival d'Angoulême. Ce film est incroyable. On parle de Marchand de Sommeil, évidemment. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On parle aussi vraiment d'une histoire humaine. C'est vraiment un film qui nous a bouleversés. On souhaitait vraiment pouvoir vous donner la parole pour justement pouvoir en parler le plus possible de ce film. Et puis surtout parler de ce sujet, du Marchand de Sommeil. Comment est venue l'idée, Steve ?
Alors, quand j'avais 20 ans, j'étais agent immobilier. Et du coup, j'ai été plus ou moins témoin de ces pratiques-là. Et il m'était arrivé une anecdote. D'ailleurs, vous allez avoir un peu la petite primeur de cette anecdote. C'est que j'avais loué un appartement. Non, j'avais vendu un appartement à un client. Je travaillais dans le 16e arrondissement. Moi, j'habitais à Cergy dans le 95, mais je venais sur Paris pour travailler dans le 16e arrondissement. Et j'avais vendu un très bel appartement, très bourgeois. Et un an après, le propriétaire est revenu et m'a proposé de retravailler avec lui, mais cette fois-ci à la location et de louer un appartement. Sauf qu'il m'a mis une condition, c'est que c'était pas son appartement, c'était celui de sa grand-mère, et sa grand-mère ne voulait pas que de Noirs y vivent. Et donc du coup, j'étais un petit peu surpris. Donc
tu m'étonnes.
J'en ai parlé à mon patron, il m'a dit OK, je comprends tout à fait que tu ne veuilles pas travailler sur ce bien. Par contre, ça reste quand même de l'argent directement dans ta poche. Et j'avais des besoins, j'étais jeune, j'étais pas non plus totalement encore construit politiquement. J'ai accepté, la première famille qui est venue, je l'ai mis en location, mais en fait ce conflit moral mais resté pendant longtemps. Et c'est vrai que le moment où j'ai commencé à travailler dans le cinéma et que du coup j'avais envie de parler de la question des marchands de sommeil, j'avais envie de l'aborder sous la question de la moralité. Et justement cet événement un peu marquant que moi j'avais vécu, je voulais l'exacerber et de le mettre à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus aussi humaine et aussi tragique. Voilà, c'est un petit peu toute la genèse de mon...
Du projet. Il y a des images d'archives, beaucoup d'images d'archives aussi avant, mais le personnage d'Aïssa Maïga, qui est la tante de Joe, débarque en pleine fête avec ses enfants et va se retrouver dans une situation compliquée parce qu'il va falloir qu'il la loge et va rien trouver d'autre que de pouvoir la loger dans un local commercial. Et du coup, c'est là que tout va basculer puisque petit à petit, sans le vouloir, il va devenir marchand de sommeil et à la merci de certains d'autres qui n'auront beaucoup moins de scrupules que lui. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est cette histoire qui est avant tout humaine. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans tout ça, on est vraiment dans l'humain avant tout. Et c'est ça que j'ai aimé dans ton film, justement, Steve.
Oui, c'est vrai que j'avais à cœur que le personnage de Joe puisse être nous tous finalement
s'identifier.
Voilà, c'est ça, qu'on puisse s'identifier et que dans cette situation moi aujourd'hui finalement je sais pas ce que je ferais. Est-ce que je laisserais ma tante dormir dehors à la rue si jamais j'avais la possibilité de la mettre dans un local dans lequel elle en fait est finalement très contente de trouver et d'habiter avec ses enfants? Ben je sais pas en fait comment je réagirais. Et c'est vrai que constamment questionner la position aussi du spectateur sur la moralité de ce qu'est en train de faire Joe, c'était vraiment une réelle envie. Et le fait que ce soit sa tante notamment, ça rapproche encore plus, ça rend le conflit finalement encore plus intime et encore plus interne.
Finalement, quelle était la scène la plus difficile pour toi ?
Alors moi, j'avais énormément hâte de tourner les séquences de fête du début du film, vraiment, parce que je voulais vraiment une séquence comme ça qui s'étale un petit peu comme dans le film de Cimino de Deer Hunter, des grandes séquences de fête pour vraiment rentrer dans cette communauté. C'est vrai que au moment du tournage, c'était horrible à tourner, parce qu'on était en confinement. C'était en plein Covid, c'était pendant un confinement. Et surtout, il y avait ce lieu qui était très
petit pour accueillir un tournage.
C'est ça, pour accueillir un
tournage. Beaucoup de monde, beaucoup de, en plus, de figurants.
C'est ça. Et il y avait aussi un facteur que j'avais pas du tout vu venir. Ben, comme on était en confinement, c'était le deuxième confinement et que finalement tout était fermé, enfin personne ne pouvait sortir, on tournait une séquence de fête, ben j'avais des acteurs surexcités qui du coup n'étaient pas du tout disciplinés et qui avaient qu'une envie, c'était de faire la fête en fait, vraiment.
Il y a une scène d'explosion et d'incendie incroyable, on va pas dire où, ni quand, ni comment, parce qu'autrement on va spoiler. Mais là aussi, qui a pas dû être simple, hein, quand même, à mettre en boîte.
Alors bizarrement,
ça c'est tu vois, voilà.
On l'a beaucoup préparé en amont avec mon chef opérateur Sébastien Gebfer. Comme c'était un petit peu pas pour tous la première fois qu'on faisait une séquence comme ça, avec autant de figurants sur un décor aussi grand et voilà, quelque chose d'aussi spectaculaire, bah en fait on l'a beaucoup préparé et surtout on a dégagé du temps pour faire ça.
C'est ton premier film, Steve.
Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on le voit pour la première fois sur un grand écran en présence du public?
Ben, j'étais très ému. Comme je l'ai porté pendant longtemps, ce film, j'ai mis 8 ans pour le faire. Il y a un côté de, ça y est, j'ai accouché, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment le sentiment que maintenant le film m'appartient plus totalement. Il est un petit peu libéré. Bon, il n'est pas encore sorti au cinéma, mais
dans 2 jours, il sera au public.
Dans 2 jours, voilà, il sera au public. Mais c'est ça, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu.
Steve, bravo encore. Merci Steve d'avoir été là.
Merci beaucoup à vous.
Et notre coup de cœur ciné s'appelle donc Le Marchand de Sable. C'est mercredi au cinéma, on écoute.
Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe très souvent et on se demande pourquoi.
C'est qui le patron?
Moi.
C'est toi?
Je rentre avec Sylvia ce soir.
Elle est là tout le temps en voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon.
Elle s'inquiète pour sa fille.
Salut Joe.
T'as tout félicité? Tu cherches un endroit dormir, c'est ça?
Je sais pas où le mettre.
Voilà, le film sort mercredi dans les salles, Le Marchand de Sable. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce magnifique film après le réalisateur. Eh bien, on a la chance d'avoir avec nous deux des héros du film, Moussa Mansali qui est avec nous. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Qui joue Joe dans le film, et Ophélie Beau également qui est avec nous. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Qui apporte cette touche féminine également, qui va essayer de remettre un peu Joe dans le droit chemin. Ça va pas être facile. Alors on a planté un petit peu le décor avec Steve et on a été bluffé par cette histoire incroyable de Joe qui voit sa tente débarquer comme ça du jour au lendemain avec ses 4 enfants depuis la Côte d'Ivoire et qui va devoir la loger en urgence et va se retrouver pris, on va dire, dans un engrenage infernal, je crois qu'on peut dire un peu ça, hein.
Mm-hmm. Ouais, exactement, c'est exactement ça, vous avez tout résumé parfaitement. Mais à travers toute cette folle aventure, on peut le voir tirailler entre ce besoin de reloger sa tante en urgence et ce besoin de vouloir faire bien et de montrer que c'est un homme bien. Mais il est pris aussi en prise avec tous les problèmes qu'il a, de fait d'être chez sa mère, d'avoir la garde de sa fille alternée qu'il peut pas placer, d'avoir ses gens à reloger. Donc en fait, c'est tout un engrenage dans lequel il essaye de sortir la tête de l'eau, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il se noie dans les eaux profondes, en fait.
Comment tu le définirais, toi, Moussa, Joe, justement?
Je dirais qu'il est complexément bienveillant. On sent qu'il y a cette douceur, cette bienveillance, mais on sent qu'il y a cette impuissance et que face à ça, il essaye malgré tout de trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Et c'est ce qui, malheureusement, et je le trouve même, il a un côté naïf, en fait.
Il bascule sans s'en rendre compte.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il veut faire bien, il fait bien. Et je pense que, sans vouloir spoiler un peu, mais il vit chez sa mère parce qu'il lui est arrivé quelques galères parce qu'il a rendu service. Et on devine un peu le caractère du personnage en se disant, c'est quelqu'un qui aime rendre service, quelle que soit la raison et quels que soient les moyens.
Alors, on va parler d'Aurore un peu, Ophélie. Alors toi, même question, comment tu la définirais?
Aurore, je la vois comme quelqu'un de naïve aussi, dans sa croyance de pouvoir aider le monde entier et sa volonté altruiste d'aider les familles. Et c'est d'ailleurs le métier qu'elle fait.
Travailleuse sociale, voilà, pour le coup le personnage d'Aurore est travailleuse sociale, est liée évidemment par cet enfant avec le personnage de Joe. Elle apprend pas tout de suite, hein, ce qui fait elle le découvre au fur et à mesure, c'est un choc pour elle, hein, quelque part, même si elle est pas surprise finalement.
Elle est pas surprise parce qu'elle connaît son ex-compagnon et vu qu'il navigue encore dans le même environnement de fréquentation, finalement ça la surprend pas, mais cette fois quand même elle pensait qu'il aurait fait autrement, qu'il aurait fait mieux, mais finalement ce qu'il propose c'était une solution à ce qu'elle n'a pas pu apporter.
Quand vous avez lu le scénario de Steve tous les deux, vous vous êtes dit quoi, Moussa?
Je me suis dit que c'était vraiment bien écrit et que pour une fois, en fait, enfin on parlait d'un sujet qui est assez, enfin qui est dans l'air, mais qui est assez tabou en fait. On en parle sans en parler. C'est-à-dire qu'on en parle toujours d'un point de vue extérieur, mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est du point de vue du marchand de sommeil en fait. C'est vrai que je m'étais posé la question, moi, de me dire comment je vais pouvoir réussir à évoquer toute cette complexité qui traverse le personnage de Joe. Mais je trouvais le challenge très intéressant en fait.
Ça change de la scène, du rap, de la chanson, toi qui es rappeur aussi.
Ça, en fait, ça change dans la mesure où, même dans la musique par exemple, toute cette complexité qu'un personnage peut avoir, on va le retranscrire dans des textes, dans des paroles ou même dans une émotion qu'on va décrire. C'est-à-dire que le fait de chanter ou de rapper, on va la transporter, on va la projeter. Là, dans ce rôle-là, c'était le plus, c'était de l'intérioriser, mais pour la faire transparaître au personnage. Et c'est des émotions que j'avais pas forcément, que j'étais pas forcément été allé chercher dans d'autres films, dans mes autres personnages. Donc là, c'était assez. J'ai dit le challenge était de taille, mais avec toute l'équipe, avec Steve, en même temps, même les travaux qu'on faisait en amont, qu'on faisait avec Ophélie, ça m'a permis justement de placer le curseur dans la justesse justement du jeu.
Ophélie, toi, à la lecture du scénario, justement.
À la lecture du scénario, c'était. Je me disais que si ce film se faisait, c'était la première fois que j'allais voir un film qui traitait de marchand de sommeil. Donc c'est ce qui m'a plu aussi, c'est de rendre visible un sujet aussi tabou. Après, pour le personnage d'Aurore, c'est quelque chose qui me parlait. J'ai fait des études dans le sanitaire et social, et du coup, être confronté à la précarité ou la misère sociale, c'est quelque chose que je connais. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai aimé le personnage d'Aurore et que je m'y suis identifiée.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Le Marchand de Sable, eh bien, ça sort au cinéma mercredi. C'est le film à ne pas rater. Je vous le dis, on a beaucoup aimé. Nous, c'est vraiment un de nos gros coups de cœur à ne pas manquer de cet hiver. Merci Ophélie. Merci Moussa.
Merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, encore deux coups de cœur ciné. Le premier consacré à La Belle Étoile, le film de Sébastien Tullard qui sera là avec Just Riad, qui seront nos invités. On parlera également du très beau film d'Olivier Payon, Arrête avec tes mensonges. Guillaume de Tonquédec et Guylaine Landais seront donc de retour dans Chute, on écoute la télé.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram, applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez-vous vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.